Bonjour, vous écoutez À Propos, le podcast d'actualité du journal Le Soir. Tous les jours, on vous propose des analyses, des explications et des décryptages. C'est notre oreille sur l'actualité. Le sort d'Olivier Van de Castel, humanitaire belge détenu en Iran, est toujours incertain. Chez nous, la mobilisation pour le faire libérer grandit. On fait le point sur ce dossier avec Pauline Hoffmann. Mais avant ça, on revient sur la polémique politique bruxelloise du moment. Le Win for Life accordé à certains hauts fonctionnaires qui conservent leur salaire même quand ils ne sont plus en poste. Nous sommes le vendredi 13 janvier. Je m'appelle Pierre Fagnard. À propos, voici l'actualité comme vous l'entendez.
Grand angle.
Win for Life, plus qu'un jeu de la loterie nationale, c'est aussi l'affaire qui secoue le gouvernement bruxellois. C'est une révélation du soir sous la plume de Julien Thomas. Les hauts mandataires bruxellois doivent-ils continuer de toucher leur salaire jusqu'à la pension alors qu'ils ont terminé leur mandat ? Pour la première fois, l'exécutif est confronté à ce type de cas. Deux dirigeants sont sous le feu des projecteurs. Un poste sur mesure vient même d'être créé pour l'une d'entre eux. Si tout travail mérite salaire, tout salaire mérite-t-il travail ? Maxime Biermé du service politique est passé en studio pour répondre aux questions de Louise Canu.
Bonjour Maxime.
Bonjour.
Depuis 2014, les hauts fonctionnaires sont rémunérés, bien sûr pendant leur mandat, mais aussi après. Pour peu qu'ils aient exercé au moins 10 ans, ils touchent le même salaire jusqu'à la pension. Et pour la première fois depuis la réforme, l'exécutif se retrouve face à un cas un peu particulier, ou plutôt deux cas particuliers. Racontez-nous.
Oui, c'est ça. Le gouvernement s'est rendu compte il y a quelques mois qu'il allait devoir trouver une solution pour deux hauts fonctionnaires qui étaient des dirigeants de l'administration à Bruxelles. Ils avaient un mandat qui avait été renouvelé une première fois, donc ça faisait 10 ans qu'ils étaient à leur poste, mais ils n'allaient plus repostuler ou continuer avec un troisième mandat. Et donc, qu'est-ce qu'on fait d'eux ? On a été voir un petit peu dans la loi et on s'est rendu compte que la loi, un arrêté de 2014, prévoit qu'ils ont le droit de conserver leur salaire parce qu'ils sont des mandataires statutaires de l'administration. Donc là-dessus, on s'est dit, le gouvernement s'est dit, qu'est-ce qu'on fait de ces deux personnes qui sont proches de la pension, hein, il faut le dire, qui sont un peu des exceptions. Ça n'arrive pas tous les trois mois qu'on doive recaser ces gens. Donc c'est la première fois même depuis 2014 que le cas se pose. Et là, ils se sont dit, on va en envoyer un vers un poste qui était disponible, il fallait remplacer quelqu'un, donc on n'a pas créé un poste sur mesure pour lui. Par contre, la deuxième, qui est une femme, on a créé vraiment un poste pour elle dans l'administration. Elle chapeaute, le mot c'est synergie, enfin peu importe le poste au final, parce que c'est vraiment créé juste entre guillemets pour l'occuper et justifier son salaire et son salaire très élevé, puisqu'on parle d'à peu près un coût de 120 000 euros par an pour la collectivité, pour ses salaires.
En quelques mots, Maxime, qui sont ces hauts fonctionnaires dont on parle ?
On avait deux personnes qui étaient à des postes de hauts dirigeants. Le premier, c'est Peter Michiels. Il est étiqueté CDNV, donc un parti flamand à Bruxelles, qui n'est pas dans la majorité pour le moment. On l'a replacé du service économie, si on veut, de la haute administration liée à l'économie, vers le poste de coordinateur Ukraine. C'était un poste qui était occupé depuis le début de la crise par Pierre Verberen, qui s'occupe normalement du CPS de la ville de Bruxelles. Donc, il y avait déjà beaucoup de boulot. Et donc là, finalement, c'était bien que quelqu'un reprenne ce poste. Il fallait quelqu'un. Après, il n'a pas spécialement les compétences pour être Monsieur Ukraine plus qu'un autre, mais bon, voilà. Ensuite, la deuxième personne qui est concernée, c'est Arlette Verkuijsen. Elle est OpenVLD, donc lui a un parti qui est dans la majorité, un parti qui est celui de Sven Gatz, qui est donc le ministre de la fonction publique en charge. Donc parfois, on pourrait un peu des fois soupçonner aussi, est-ce qu'il n'y a pas quand même une main politique derrière de vouloir aider cette dame étiquetée OpenVLD qui est passée par les cabinets. Et donc, on lui a créé un poste de directrice en chef pour Bruxelles Synergie, mais c'est quelque chose qui est inventé pour elle.
Et comment le gouvernement bruxellois réagit ? On imagine que ça ne plaît pas à tout le monde et que ça peut le mettre dans une position un peu embarrassante.
Alors, le gouvernement est embarrassé depuis un certain moment, puisque dans le papier de Julien, dans l'article qui révélait ce Win for Life, on avait déjà Sven Gatz, qui est donc ministre OpenVLD, qui est le ministre de la fonction publique dans le gouvernement bruxellois, qui annonçait déjà qu'il était en train de préparer une réforme. D'ailleurs, ils assument depuis le début que ça ne va pas et qu'il faut changer les règles du jeu et qu'ils s'en sont rendus compte peut-être un peu tard, mais qu'ils s'en sont rendus compte et qu'ils travaillent là-dessus. Donc ça, on ne peut pas leur reprocher, finalement, ils font quelque chose. Et donc au gouvernement, on était un petit peu genre « oulala, qu'est-ce qu'on fait ?» C'est sorti dans les journaux, ça a été ensuite repris par différents députés, même de la majorité. Donc l'opposition a dit « ça ne va pas, c'est coûteux, c'est scandaleux ». Finalement, c'est son rôle et heureusement. Ensuite, Écolo, qui fait partie de la majorité, a dit « il faut absolument supprimer l'article qui permet à ces hauts fonctionnaires de garder un salaire très important alors qu'ils n'ont plus de mandat. Ensuite, ils ont été rejoints par des filles, ils ont été rejoints aussi par le PS, donc les trois partis de la majorité ont finalement dit « il faut que ça change ». Mais ça, ce sont des députés qui parlent dans la presse, ce n'est pas quelque chose de concret qui fait que la règle disparaît. Donc pour la première fois, ce jeudi, le gouvernement a abordé le sujet de manière informelle, ce n'était pas officiellement sur la table, et Sven Gatz, donc toujours le ministre de la fonction publique, s'est engagé à un petit peu accélérer le tempo et à revenir dès la semaine prochaine avec un cadre, parce qu'il faut un cadre juridique en béton pour supprimer une règle qui elle-même est un arrêté et donc une règle juridique en béton.
Donc là, le sujet est sur la table, on est sûr que la réforme va évoluer.
On n'est jamais sûr de rien, c'est de la politique, mais a priori, ils sont tous d'accord. Tout le monde est d'accord, depuis le début d'ailleurs, pour reconnaître, dans la majorité comme dans l'opposition d'ailleurs, qu'il faut changer cette règle et la supprimer. C'est un article dans un arrêté de 90 pages qu'il faut supprimer.
Qu'est-ce que l'affaire du Win for Life dit du monde politique administratif en Belgique en ce moment ?
C'était intéressant quand même que cette affaire sorte, parce qu'on parle beaucoup de Bruxelles, mais on a aussi surtout parlé du Parlement wallon ces derniers temps, et puis aussi même au niveau européen, du Qatar Gate. Il y a vraiment beaucoup de focus sur la manière dont fonctionnent les nominations politiques et le rôle des politiques, les avantages, etc. Mais quand même, moi j'ai fait l'interview d'une experte cette semaine qui travaille à aider à la formation des hauts fonctionnaires notamment, et qui étudie ça, c'est son domaine de recherche à l'ULB depuis des années, Marie Goransson pour la citer, et elle dit que il y a quand même déjà beaucoup de choses qui ont été mises en place, que le système des mandats dont bénéficient ces personnes, c'est un bon système, ça a permis de justement un petit peu diminuer le poids du politique sur qui est nommé et comment. Donc en fait, il y a juste cette petite règle qu'on dénonce là dans le Win for Life qui devrait être supprimée, mais globalement le système n'est pas à remettre complètement en question. Il y a quand même des grosses améliorations qui pourraient être mises en place, puisque par exemple en Wallonie et en Fédération Wallonie-Bruxelles, il y a tout un autre écosystème, toute une autre manière de faire pour décider qui devient responsable de la haute administration. Il y a une sorte de, un peu à la française, une sorte de haute école ou un certificat qu'on est en train de mettre en place pour créer un pool de fonctionnaires, un pool de gens chez qui on peut aller puiser les personnes à qui on va donner des hautes responsabilités. Ça n'existe pas à Bruxelles. Certains, comme les écolos, ont plaidé pour qu'on mette en place aussi cela à Bruxelles. Donc on va voir aussi dans les prochains jours si Sven Gatz, le ministre compétent donc, en la matière, va venir uniquement avec « je supprime cet article » ou s'il va être un peu plus ambitieux et peut-être même venir avec des propositions pour encore améliorer les choses.
Merci Maxime. On suivra ça de près alors.
Merci.
Grand angle.
L'humanitaire belge Olivier Van de Castel est emprisonné en Iran depuis le 24 février 2022. Le régime perd patience et utilise une pratique dont il est coutumier qu'on appelle la diplomatie des otages. L'objectif, c'est de récupérer son diplomate, Assadollah Assadi, emprisonné en Belgique. En condamnant Olivier Van de Castel à 40 ans de prison et 74 coups de fouet, le régime exerce une grande pression sur la Belgique. Camille Petou a interrogé Pauline Hoffmann du Service Monde. Elle nous explique les enjeux diplomatiques et humanitaires de cette situation particulière.
Bonjour Pauline.
Bonjour.
Olivier Van de Castel est emprisonné en Iran depuis maintenant 11 mois. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu son histoire ? Comment est-ce qu'il en est arrivé là ?
Donc en fait, Olivier Van de Castel, c'est un travailleur humanitaire qui vient de la région de Tournai. Il a travaillé dans plein de pays dans le monde et en fait, une de ses dernières missions se déroulait en Iran. Il y a été depuis 2015. Travailler pour une organisation qui s'appelle le Norwegian Refugee Council, qui est une organisation humanitaire très connue et très reconnue dans le monde. Il a terminé sa mission et une fois rentré en Belgique, il avait quelques affaires à régler à Téhéran et donc il est retourné en Iran pour quelques jours sur un visa touristique et c'est à ce moment-là qu'il a été arrêté par les autorités iraniennes.
Et qu'est-ce que l'Iran reproche exactement à Olivier Van de Castel ? Est-ce qu'on a des informations précises sur ses conditions de détention ?
Alors, on a appris récemment qu'il est accusé d'espionnage par l'Iran, ce qui est assez classique de la part du régime iranien. Et alors, ses conditions de détention sont très mauvaises. Sa famille estime qu'elles sont assimilées à de la torture. Donc, pour vous donner une petite idée, Olivier Van de Castel, ça fait près de 11 mois qu'il est à l'isolement total, c'est-à-dire qu'il n'a pu parler à quasiment personne depuis 11 mois. Il est seul dans une pièce, il a vécu plusieurs semaines, voire plusieurs mois sans drap pour pouvoir se couvrir la nuit. Il est mal nourri, il a de graves problèmes de santé. Pour rentrer dans le détail, il a perdu des ongles des pieds, donc on ne sait pas si c'est un problème de santé plus grave ou si c'est un problème de malnutrition. Il a vécu pendant de très longs mois dans une pièce avec de la lumière 24 heures sur 24 et il fait extrêmement froid dans sa cellule. Donc il vit vraiment dans des conditions de détention très 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 difficiles et il a perdu je ne sais plus combien, mais plusieurs kilos, il est extrêmement amaigri.
Il était initialement condamné à 28 ans de prison. On sait depuis quelques jours que cette condamnation est passée à 40 ans et aussi 74 coups de fouet. Est-ce que ce genre de condamnation est classique en Iran ?
Alors, l'Iran est un pays qui applique toujours la peine de mort et les châtiments corporels assez fréquemment, souvent contre ses propres ressortissants. Ce qui est intéressant de regarder dans la condamnation d'Olivier Van de Castel, c'est que la divulgation des éléments de peine arrive un petit peu au fur et à mesure. Pendant de très longs mois, on n'a pas su de quoi il était accusé, on n'a pas su s'il y avait un quelconque procès, un procès qui est dénoncé comme fantoche. Et là, on commence à apprendre doucement qu'il est condamné à 28 ans, et puis ensuite qu'il est condamné pour espionnage, et puis ensuite qu'il est condamné à des coups de fouet, et puis ensuite c'est plus 28 mais 40. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de regarder cette séquence où on voit qu'il y a une montée de pression de la part du gouvernement iranien et des autorités iraniennes pour montrer que voilà, ils détiennent cet homme de manière arbitraire et qu'en fait, ils peuvent en faire un peu ce qu'ils veulent, quoi.
Donc c'est un moyen de négociation diplomatique, on appelle ça la diplomatie des otages, un phénomène pas nouveau pour l'Iran. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne ?
Alors la diplomatie des otages, c'est effectivement pas neuf pour la République islamique d'Iran, et d'ailleurs ça commence à la création de la République islamique d'Iran en 79. On se souvient de la crise des otages américains, donc en fait c'était 52 américains, y compris des diplomates, qui ont été retenus dans l'enceinte de l'ambassade américaine pendant 444 jours. Cette crise des otages, en fait, était liée à l'hospitalisation de l'ancien Shah d'Iran, donc l'ennemi des ayatollahs, aux États-Unis. Et donc c'était clairement un moyen de pression sur les Américains. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit une corrélation entre des périodes de détente et de tension entre l'Iran et l'Occident et des arrestations d'occidentaux dans le pays. Donc, quand c'est une période où les relations irano-occidentales sont relativement bonnes, il y en a un petit peu moins. Et quand ça commence à être un peu plus compliqué, il y en a un petit peu plus. Alors souvent, ces ressortissants, ils sont arrêtés souvent sous motif d'espionnage. Pas toujours, mais assez régulièrement. C'est régulièrement des binationaux, donc des personnes qui ont la nationalité iranienne et une nationalité occidentale, mais parfois, comme Olivier Van de Castel, ce sont juste des gens qui sont en Iran et qui sont emprisonnés. Souvent accusés d'espionnage, de tenter de déstabiliser le pays. Il y a quelques cas assez connus ces derniers temps. Il y a évidemment Ahmad Reza Jalali, qui est un prof invité de la VUB irano-suédois. Ça fait déjà longtemps qu'il est emprisonné et condamné à mort. Il y a eu récemment des ressortissants français. Il y en a 7 actuellement qui sont retenus, donc ça ne concerne pas que la Belgique, c'est vraiment tous les pays occidentaux.
Dans le cas de cet otage belge, on peut évidemment pas s'empêcher de penser au diplomate iranien Assadollah Assadi, qui est enfermé et qui a été condamné pour terrorisme en Belgique. Est-ce que ça rentre dans cette négociation de diplomatie d'otages ?
Ah oui, exactement. En fait, ce que veut l'Iran souvent dans cette diplomatie des otages, c'est récupérer ses propres ressortissants qui sont emprisonnés dans les pays européens. Il y a ce cas effectivement d'Assadollah Assadi. Il faut peut-être revenir un petit peu sur qui il est. Assadollah Assadi, c'est un diplomate iranien qui a été condamné en Belgique il y a un an et demi environ pour avoir tenté d'organiser un attentat terroriste contre une réunion d'un groupe d'opposition iranien. Et donc voilà, il a été emprisonné. Et en fait, ce que veut obtenir l'Iran aujourd'hui de la Belgique, c'est son retour dans son propre pays.
De quels moyens concrets dispose la Belgique pour libérer Olivier Van de Castel sans forcément remettre à l'Iran le diplomate Assadollah Assadi ?
S'il y avait un moyen facile de retrouver et de récupérer Olivier Van de Castel, ça serait déjà fait. Il y a une très très forte négociation diplomatique qui doit avoir lieu. Et puis voilà, les affaires étrangères belges étaient à l'époque ouvertes au fait de renvoyer Assadollah Assadi dans son pays.
Oui, c'est un traité qui a été suspendu le mois dernier.
Oui, je pense qu'il faut un peu réexpliquer. Donc, pour pouvoir transférer Assadollah Assadi vers l'Iran, la Belgique a décidé de faire un jeu démocratique, d'être ouverte, d'être transparente et de passer par un texte de loi. Ce texte de loi, donc, c'est un traité de transfèrement. En vrai, c'est un texte qui permet l'échange de prisonniers. Et le problème, c'est que le Conseil national de la résistance iranienne, donc ce groupe d'opposition dont j'ai parlé un petit peu plus tôt, qui était visé par cet attentat, n'a pas particulièrement apprécié d'imaginer la personne qui a organisé cet attentat retourner dans son pays, où il n'y a absolument aucun doute sur le fait qu'il ne purgera pas de peine, quoi. Donc il y a une série de recours qui ont été engagés, dont un devant la Cour constitutionnelle. Et donc voilà, ce recours pour l'instant est pendant. On attend d'ici début mars de savoir si ce traité de transfèrement va être annulé ou s'il peut bien être appliqué. Si jamais il est annulé, Là, on repart à zéro.
Cette affaire va sûrement prendre de l'ampleur diplomatiquement, juridiquement, humainement aussi. On sait qu'en ce moment, les manifestations en Iran sont nombreuses. Des exécutions ont lieu, notamment le week-end dernier. L'opposition, la résistance, comme la répression du régime ne lâchent pas. C'est pas le moment pour la Belgique de gérer une telle situation de crise.
Alors en fait, c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'il y a énormément de facteurs diplomatiques qui entrent en ligne de compte. Et si c'était une affaire simple, elle serait déjà réglée. Olivier Van de Cassel serait très probablement déjà de retour dans sa famille. Il n'y a pas de solution simple dans cette affaire. Elle n'est pas impossible à résoudre, loin de là. Et s'il y avait plus d'espoir pour Olivier Van de Cassel, ça serait extrêmement triste. La vraie question là derrière, c'est de savoir qu'est-ce que la Belgique accepte en ce moment de lâcher un régime qui est en train de réprimer des manifestants et quel prix elle est prête à payer pour sa fermeté diplomatique.
Merci beaucoup, Pauline.
Merci.
Bouche à oreille.
Chaque week-end, une personnalité se dévoile dans les pages des Racines élémentaires. Ce samedi, c'est un humoriste, comédien, auteur, metteur en scène et producteur français. Il fait la scène comme on fait l'école buissonnière. Jérémy Ferrari se raconte dans une interview signée Nicolas Crous. Louise Canu a commencé par demander à Nicolas de nous rappeler qui est Jérémy Ferrari.
Alors, Jérémy Ferrari, c'est un humoriste français, né à Charleville-Mézières, à la frontière belge, qui est très populaire aujourd'hui, qui remplit des salles vraiment énormes. Il sera d'ailleurs fin janvier à Forêt Nationale. Et il a été révélé en 2010 par un télécrochet destiné aux nouveaux talents de l'humour, le Ondar Show, présenté par Laurent Ruquier. Ondar, c'est comme on ne demande qu'à en rire. Et depuis, du jour au lendemain, ce jeune homme qui à l'époque avait 25 ans est devenu une valeur sûre qui remplit les salles en termes de one-man show. Donc ce sont des one-man show mais truffés de documentation. Il a eu ses trois derniers spectacles qui ont parlé beaucoup des religions. Ça, c'était son premier. Son deuxième était consacré à la géopolitique. Et aujourd'hui, il a un spectacle qui s'appelle Anesthésie Générale, centré sur la question de la santé. Il avait en fait écrit ce spectacle déjà un petit peu en amont, avant la crise de la pandémie. Mais bon, il l'a évidemment adapté. Et c'est un spectacle dans lequel il parle évidemment de la question publique de la santé, mais aussi il révèle beaucoup ses difficultés à lui, qu'il a traversé comme très très grande difficulté en termes de dépression, d'alcoolisme et même de tentatives de suicide.
Pourquoi il faut lire votre interview ?
Il y a une anecdote qui est assez intéressante, c'est que Jérémy Ferrari, qui est cette vedette française de l'humour, a un lien très fort avec la Belgique et avec notamment indirectement l'histoire du journal Le Soir, de notre rédaction, puisque son arrière-grand-père, le grand-père de sa mère, son arrière-grand-père, Marcel Vermeulen, a été journaliste culturel. D'ailleurs, il écrivait sur des spectacles précisément dans les années 50-60. Alors maintenant, pourquoi le lire ? Parce que c'est le témoignage d'un homme qui raconte comment il s'est construit en s'acharnant. C'est une jeunesse populaire dans le quartier populaire de Manchester, c'est le nom du quartier, à Charleville-Mézières, avec des parents qui sont des petits commerçants qui tiennent une supérette. Il est mauvais élève à l'école, ça se passe pas bien du tout, il y a un décrochage. Et à 16 ans, il claque la porte en disant qu'il se tourne vers la scène. C'est super tôt parce qu'il est en conflit avec ses profs, il en vient presque aux mains avec un de ses profs. Et il raconte comment il s'est construit avec une structure familiale et parentale très forte. La confiance de ses parents, les valeurs du père, les valeurs, c'est la loyauté, c'est le respect, c'est le travail et aussi l'humour de la mère. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on met les deux ensemble, on se rend compte que c'est un humoriste qui s'est construit sur la colère beaucoup. Et ben, il a pris la colère et les combats de son père et il a pris le rire et la légèreté, l'humour de sa mère. Tous ces combats d'aujourd'hui parlent de ses racines indirectement. Je pense aussi que ses difficultés scolaires, son échec, le fait qu'il ne soit pas rentré dans le moule, a un lien avec ce qu'il est devenu aujourd'hui. Il est intéressant de noter que dans ces trois spectacles dont j'ai parlé, centrés sur les religions, la géopolitique, la santé, il a voulu comme combler un manque et c'est comme si la scène était devenue une sorte d'école buissonnière. Et je pense que donc, il ne serait pas devenu l'homme qu'il est s'il n'avait pas été cet élève raté. Il se disait, je peux pas être un idiot, c'est pas possible. Et donc, il a un petit peu comblé ce manque d'une façon alternative, en devenant un homme de scène.
À propos, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient lundi dès 7h. En attendant, abonnez-vous, partagez-nous. Vous nous trouverez sur notre site, notre application et votre plateforme de podcast préférée. À lundi.